Voici l'abécédaire de la der des der. Elle, comme labour, ou plutôt non-labour. Le 13e festival du non-labour et semi-direct qui a eu lieu le 14 septembre 2011 à Saint-Pouange a rassemblé 2000 personnes. 2000 personnes convaincues que l'on peut travailler les sols autrement. À rebrousse-poil de l'agriculture telle qu'on croit la pratiquer depuis des lustres, ces paysans expérimentent les TCS, ou techniques culturales simplifiées, basées sur le non-labour et le semi-direct. Encore un truc de feignant, me direz-vous, tout comme l'agriculture du non-agir. Et pourtant, cette simplification du travail du sol n'est pas incompatible avec les impératifs de rendement que sont bientôt 7 milliards de bouches à nourrir. Bien au contraire. Pour une agriculture écologiquement intensive, la simplification du travail du sol est l'agriculture de conservation. Voici quelques extraits d'un article de Mathieu Archambault paru sur le site agriculturedeconservation.com. En France, de plus en plus d'agriculteurs abandonnent partiellement ou totalement le labour, le plus souvent pour des raisons économiques, réduction de 20% à 40% des coûts de mécanisation. Cependant, la réduction du travail du sol ne s'improvise pas et demande réflexion, observation et adaptation. L'agriculture de conservation repose sur une combinaison de trois principes fondamentaux que sont la réduction du travail du sol, la couverture permanente et l'élaboration de rotations plus longues et plus diversifiées. Chaque agriculteur adapte son système en fonction de son milieu et de ses objectifs. Une prairie naturelle ou une forêt fonctionne de manière autonome. Le travail du sol est inutile dans un écosystème stable. En imitant la nature, l'agriculture de conservation permet de protéger l'environnement tout en réduisant les coûts de production. Améliorer l'infiltration de l'eau dans les parcelles, c'est garantir sa réserve utile et conserver les éléments dans le sol. C'est par conséquent réduire les intrants et réduire les phénomènes d'érosion, de ruissellement, qui conduisent à des pollutions, des dégradations d'infrastructures et d'inondations. La réduction du travail du sol et l'installation de couverts végétaux permettent de réduire la consommation d'humus et d'accélérer sa synthèse. En séquestrant le carbone, on améliore les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, tout en participant à la réduction de l'effet de serre. Les rendements sont comparables à ceux observés en agriculture conventionnelle et dans les systèmes évolués sont même supérieurs. En évitant de perturber le sol et en le couvrant de façon permanente, on développe la biodiversité. L'équilibre biologique permet de réduire les consommations de pesticides et de se diriger vers la lutte intégrée.
Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier, hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, bah, l'eau ne va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir jusqu'où, à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent, ah, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi.
Il s'agit d'adapter la culture au sol et non le sol à la culture. En Amérique du Sud, où les précipitations sont fortes, il est impossible d'utiliser les techniques européennes de labour. La solution réside donc dans les TCS, ces fameuses techniques culturales simplifiées, ou techniques de conservation des sols. Les paysans mexicains pratiquent l'agriculture d'association en cultivant du maïs, du haricot et de la courge dans le même champ. Pareil au Vietnam, avec les plantations de riz. Ils ont ainsi une meilleure productivité que nous au mètre carré. Mais cela demande beaucoup de main-d'œuvre, car il n'y a pas de machine adéquate. Si le labour a des avantages, et d'abord pour le labour en surface, celui d'aérer le sol en le décompactant et rendre la terre plus meuble, et le travail avec les machines plus aisé, cette technique présente surtout de nombreux inconvénients. Elle peut créer une semelle de labour. Le labour des sols humides, notamment, est une véritable catastrophe environnementale car il génère une compaction accrue. Il peut faire disparaître la couche d'humus superficielle, les fameux complexes argilo-humiques, exposer le sol à l'érosion, diminuer fortement la qualité et la quantité de la matière organique en surface, enfouir les résidus végétaux de surface et les amendements organiques, favorisant ainsi leur décomposition anaérobie, dans le cas du labour en profondeur, ce qui nuit aux champignons utiles qui, eux, bossent en aérobie, favorise l'acidification du sol ainsi que les nématodes qui peuvent parasiter les racines et certaines bactéries anaérobies qui minéralisent trop rapidement la matière organique. Ce qui se traduit par une perte de nitrates qui sont très solubles dans l'eau et c'est ainsi qu'on se retrouve dans de nombreuses régions en France à ne plus pouvoir boire l'eau du robinet. En plus, cela nécessite un coûteux besoin d'engrais qui risque de polluer en plus la nappe phréatique. Le labour perturbe aussi les vers de terre, en particulier les vers de terre anésiques qui font des galeries verticales, en ne les incitant plus à remonter chaque nuit en surface, puisqu'ils trouvent la matière organique enfouie. Leur travail d'aération du sol est donc diminué ou interrompu en surface. La diminution de la biomasse en vers de terre, associée à la disparition du mulch ou litière en surface du sol, modifie rapidement les caractéristiques de la couche de surface du sol, la couche arable qui devient stérile.
Et nous sommes Herbert.
Antoine,
Wächter,
les vers de terre, et nous ne sommes pas peu fiers d'être les plus nombreux sous terre.
De haut en bas, de bas en haut, nous charrions les feuilles mortes, cadavres et bois pourris. De haut en bas, de bas en haut, nous chions de l'humus, le tapis des sous-bois. De haut en bas, de bas en haut, y'a là rien de lubrique pour nous les lombriques. De haut en bas, de bas en haut, parce que nous on chie un complexe argilo-humique. Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés. Sans nous, pas de bonne terre, rien que de la poussière. Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés. Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés. Sans nous, pas de bonne terre, rien que de la poussière. Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés.
On dit que les arbres sont les poumons de la planète. Eh bien nous, nous en sommes le trou du cul.
De haut en bas, de bas en haut, en creusant nos galeries, nous aérons le sol. De haut en bas, de bas en haut, ainsi pas d'érosion, plus de rivières marron. De haut en bas, de bas en haut, et nous nous trémoussons, et le désert nous repoussons. De haut en bas, de bas en haut,
nous sommes les ingénieurs du sol, sans cravate et sans faux col.
Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés. Sans nous, pas de bonne terre, rien que de la poussière. Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés. Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés. Sans nous, pas de bonne terre, rien que de la poussière. Nous sommes les vers de terre, tout roses et tout musclés.
Et nous sommes Herbert.
En Antoine
Wester.
Les vers de terre, et on est très en colère. C'est vrai qu'on n'a pas l'air, mais le labour nous asphyxie. En dessous, c'est pourri. On va vous faire bouffer la poussière. De bas en haut, les humains font n'importe quoi, ils vous disent tout, mais de quel droit? De haut en bas, de bas en haut, il y a un siècle nous étions deux tonnes à l'hectare, mais aujourd'hui nous nous sommes rares. De haut en bas, de bas en haut, le labour met tout à l'envers et on ne peut plus aider la terre. De haut en bas, de bas en haut, six pieds sous terre, on vous poussera les viscères. Nous sommes les vers de terre, tout rose et tout musclé. Sans nous, pas de bonne terre, y'a que de la poussière. Nous sommes les vers de terre, tout rose et tout musclé. Nous sommes les vers de terre, tout rose et tout musclé. Sans nous, pas de bonne terre, y'a que de la poussière. Nous sommes les vers de terre, tout rose et tout musclé.
Le labour est, pour toutes ces raisons, ainsi que pour réduire le temps de travail et réduire la consommation de carburant, de plus en plus remis en cause, notamment sur les sols fragiles, secs ou exposés aux climats tropicaux. Une des alternatives la plus radicale et la plus efficace au labour, on l'a vu, est l'agriculture de conservation. Sur les sols dégradés, les rendements peuvent souvent doubler et permettre une résistance à la sécheresse et une résilience écologique très améliorée. Et il est temps, car l'agriculture industrielle, dont le labour n'est qu'un excès, a détruit les sols en un temps record. Comme le dit Claude Bourguignon, nous observons une chute régulière et absolument constante de l'activité biologique des sols. Claude Bourguignon, c'est un ingénieur agronome français, ancien collaborateur de l'INRA, connu pour ses travaux et expériences sur la microbiologie des sols. Il a fondé le LAMS, Laboratoire d'analyse microbiologique des sols, en 1989 avec sa femme Lydia Gabucci Bourguignon, maîtresse science. Il était invité à un colloque « Où va le monde ?», un état du monde sur l'écologie et l'économie au 10 décembre 2010 à l'initiative d'Yves Cochet, député de Paris. On l'écoute.
Je me présente rapidement, donc Claude Bourguignon, ingénieur agronome. Avec Lydia, on a travaillé à l'INRA pendant 10 ans, et puis à l'époque, on était rentré dans la recherche publique pour être au service des gens. Puis on s'est rendu compte que l'INRA, à l'époque, en 77, a été vendu à l'agro-industrie, donc ça ne nous convenait pas, on n'avait pas envie d'être fonctionnaire pour être au service de l'agro-industrie. Donc on a quitté l'Institut en 1989, et nous avons fondé le seul et unique laboratoire dans le monde qui, pour les agriculteurs, mesure, étudie, le sol sur le plan physique, chimique et biologique. Donc, nous avons effectué plus de 6000 analyses de sol à travers le monde. Donc, je dis sol, ça veut dire qu'on va sur le terrain, on fait le trou, on va jusqu'à la roche, on regarde comment sont les racines, la faune, etc. C'est pas de l'analyse de terre, c'est qu'on fait pas comme font les labos qui vendent des engrais aux agriculteurs, on envoie de la terre, voilà. Et donc, on observe depuis 20 ans, puisque nous analysons nous faisons la moyenne de toutes les activités biologiques que nous mesurons sur la planète tous les ans à la fin de l'année. Nous observons une chute constante et absolument régulière de l'activité biologique des sols. Il faut savoir que les sols, ils hébergent 80% de la biomasse mondiale. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas à vous. Vous voyez les arbres, vous voyez les plantes, mais ce que vous voyez pas, c'est que l'essentiel de la biomasse vivante, elle est dans les sols. Pour vous donner une idée, les vers de terre, à eux tout seuls, ils représentent le même poids que tous les autres animaux du monde réunis. Et dans un pays, dans une région comme l'Europe, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Les vers de terre, la faune, elle a un rôle fondamental qui est de remonter les éléments constamment. Elle remonte par ses déjections. Les vers de terre, un bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Tous les jours, ils vous remontent 2 tonnes de terre. C'est qu'ils remontent la potasse, le phosphore, l'azote à la surface du sol et ils évitent que ces éléments se lessivent. Donc, ils vont éviter que toutes nos richesses, toute la richesse du sol parte dans les nappes phréatiques comme c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Alors, depuis un peu plus d'un siècle, depuis la fin du 19e, les scientifiques sérieux alarment l'espèce humaine sur le fait que nous sommes en train de dégrader les 3 milieux dans lesquels s'épanouit la vie. La vie s'épanouit dans 3 milieux, l'atmosphère, l'eau et le sol. L'atmosphère et l'eau sont formées de composés de molécules. L'atmosphère de gaz et l'eau, une molécule que vous connaissez tous, l'eau H2O. Les molécules sont formées d'atomes qui sont attachés entre eux par des attaches atomiques. Ce sont des milieux extraordinairement solides. C'est absolument impossible de faire disparaître l'atmosphère, c'est impossible de faire disparaître l'eau. Il faudrait chauffer la planète à 100 degrés, ce que nous ne savons pas encore faire. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans l'atmosphère, dans l'eau? Nous les polluons, et on s'en prive pas. On jette des gaz toxiques dans l'atmosphère, on jette des polluants dans l'eau. Le sol est un milieu complètement différent. Le sol est un milieu qui n'existe d'abord que sur notre planète, la Terre. Vous remarquez la sagesse des anciens qui ont appelé notre planète Terre. Ils l'ont pas appelé océan, alors que 70% de la planète est couverte d'eau. Ils l'ont pas appelé atmosphère, alors que l'atmosphère fait 70 km d'épaisseur. Les sols ne font que 50 cm d'épaisseur en moyenne sur la planète. Ils l'ont appelé Terre et ils ont raison. Il y a qu'une seule planète qui a du sol. C'est la nôtre. C'est cette planète Terre. Et ce sol, il est complètement différent de l'atmosphère et de l'eau. Il est organo-minéral. Le fait qu'il soit organo-minéral fait que la substance minérale, les argiles fabriquées par les racines et par les microbes, qui sont les minéraux les plus complexes du monde, c'est intéressant, la vie fait de la complexité, nous passons nous notre temps avec l'énergie à faire de l'entropie, à faire du désordre, la vie fait du complexe, elle prend les roches, elle les attaque, elle les transforme dans les minéraux les plus complexes du monde, qui sont les argiles. Les microbes et les champignons vont attaquer la litière pour former la molécule organique la plus complexe du monde, qui est l'humus. Et le sol, il est formé de l'attache du minéral le plus complexe fabriqué par la vie, les argiles, qu'on ne trouve que sur la Terre. Il n'y a pas d'argile sur la Lune, il n'y a pas d'argile sur Mars. Et de l'attache avec les humus, qui sont les matières organiques les plus complexes du monde. Et il se trouve que les argiles et les humus sont négatifs. Et lors de la décomposition des roches-mères et lors de la décomposition de la litière, il se libère des atomes qui ont deux charges positives, le calcium, Ca++, le fer, l'aluminium et le magnésium, qui vont attacher ensemble les argiles négatifs et les humus négatifs pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Or, ces attaches sont des attaches électriques, et les attaches électriques, en chimie, sont des attaches fragiles. Il est donc extrêmement facile de détruire les sols et de les faire disparaître. Alors, quel était le travail de l'humanité quand l'humanité a décidé de cultiver les sols? Eh bien, nous avons dégradé, en 6000 ans, 2 milliards d'hectares de terres agricoles. C'est que lorsque nous avons commencé l'agriculture, les déserts couvraient 11% de la planète, ils en recouvrent maintenant 32%. Sur ces 2 milliards d'hectares de déserts que nous avons créés, il y en a 1 milliard qui a été créé juste au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons détruit autant de terres que 6000 ans d'agriculture qui nous ont précédés. Alors, quelle est la situation actuelle pour l'humanité? Nous cultivons 1 milliard 500 millions d'hectares de sol. Nous sommes 6 milliards 8 d'habitants, c'est-à-dire nous avons 6 milliards 9, donc vous voyez, mon chiffre est déjà un peu vieux, donc nous sommes à moins de 2200 m² par habitant. Nous détruisons en ce moment la planète à la vitesse, les sols agricoles à la vitesse de 10 millions d'hectares par an, et nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît sous le béton. D'accord? Donc, nous avons... Alors, comment on fait? Parce qu'on perd quand même 15 millions d'hectares de terres cultivées. Comment on fait pour s'en sortir? Nous déforestons 15 millions d'hectares chaque année, essentiellement dans les terres tropicales. C'est les forêts les plus importantes de la planète, celles qui évitent la différence trop grande de température entre l'équateur et les pôles. C'est pour ça que nous avons des ouragans. C'est que je travaille, par exemple, en ce moment sur le front pionnier amazonien. Je travaille sur la région de Lucas de Verde. En 1992, quand nous avons commencé à travailler, il y avait encore la forêt qui était tout près. On avait une pluviométrie de 2 mètres d'eau par an. Maintenant, nous sommes à moins de 1000 millimètres. C'est-à-dire que nous avons divisé par deux la pluviométrie, vous voyez, en à peu près 18 ans, hein, pour vous donner une idée. Et la température, elle est passée de 22 degrés dans la forêt à plus de 45 degrés dehors. Et nous sommes en train de créer des ouragans parce que la planète se réchauffe au niveau de l'équateur et les pôles continuent à être frais. Enfin, ils se réchauffent aussi, mais pas la vitesse où se réchauffe l'équateur. Donc, nous avons donc à l'heure actuelle une surface agricole qui est stable. Nous détruisons 15 millions d'hectares, nous déforestons 15 millions d'hectares pour récupérer ce que nous avons perdu, et la population, elle augmente de 70 millions d'habitants par an. Donc, la situation devient intéressante. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Nous perdons, parce qu'il y a un phénomène auquel personne ne fait attention, c'est que depuis 1984, la production agricole mondiale, céréales, est stagne. Nous sommes aux alentours de 2 milliards de tonnes de céréales produites sur la planète depuis 1984. C'est-à-dire que quand on a créé la révolution verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, qui a été la pire. C'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé 1 milliard d'hommes en état de famine. C'est que les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit, maintenant, on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Syngenta et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénéf. Ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on appelait la révolution verte. Les hommes auraient dû se méfier, les révolutions sont toujours sanglantes. Donc, une révolution peut pas être verte, elle est obligatoirement sanglante. Qu'est-ce qui s'est passé en faisant la révolution? Nous avons décidé de simplifier outrageusement le modèle agricole. C'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation hautement raffinée qui était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les paysans, ignorants, pour les scientifiques, donc abrutis, avaient créé quelque chose d'extraordinairement astucieux. Ils avaient compris que pour que le système agricole nourrisse les hommes, il fallait qu'il y ait à la fois la forêt servait à faire des haies qui empêchaient le bétail de divaguer, fournissait du bois, fournissait aussi de la fertilisation pour les sols, hein, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Ils avaient compris qu'il fallait régulièrement laisser reposer le sol sous la prairie. Cette prairie, on la faisait brouter par du bétail, ce bétail donnait du fumier, et avec ce fumier, on refertilisait les sols. C'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est le modèle le plus productif au monde par mètre carré. Je vais vous donner un exemple très simple de modèle fait par des gens soi-disant ignorants. On va prendre le modèle aztèque avant que les Espagnols cassent tout. C'est un modèle très astucieux. Vous plantez en même temps dans le même trou une graine de maïs, une graine de haricot. Le haricot s'enroule autour du maïs. Le haricot s'associe avec une bactérie, le rhizobium, qui fixe l'azote. Donc, il donne de l'azote au maïs. Le maïs grandit et entre les rangs de haricots et de maïs, vous mettez de la courge et vous récoltez sur le même champ de la courge, du haricot et du maïs. Il n'y a aucun système intensif qui n'est capable de produire autant au mètre carré. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de machine qui ramasse en même temps les haricots, le maïs et la courge. Ça, on n'a pas encore inventé. Donc, qu'est-ce que nous avons inventé? Nous avons inventé l'agriculture intensive. On a appelé ça intensive, elle n'est pas du tout intensive. Elle est intensive par paysan. Elle n'est pas intensive au mètre carré. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, avec la monoculture, c'est-à-dire un agriculteur qui va faire que du blé, il va être capable, à l'heure actuelle, un agriculteur en Amérique du Nord sur un gros domaine peut cultiver tout seul 500 hectares. Mais si vous ramenez à sa production agricole, elle est nulle par rapport à ce que faisait le paysan aztèque. Ou ce que faisait, par exemple, le balinais. Un balinais qui fait deux récoltes de riz par an, qui coupe les haies d'acacia, fixateur d'azote, qui met sur le sol après la récolte de riz, fait passer les canards qui ramassent les grains de riz, qui font de la merde et qui font de l'engrais. Il fait 120 quintaux de riz, zéro engrais. 120 quintaux de riz, zéro engrais. Alors, on a décidé d'avancer l'évolution verte. C'est-à-dire qu'on dit, ce modèle-là, c'est beaucoup trop compliqué. Nous allons retourner à l'époque du néolithique. C'est-à-dire, on va reculer l'agriculture de 6000 ans. On va retourner à l'époque où il y avait des chasseurs d'un côté, il y avait des éleveurs de l'autre. Alors, on a mis tous les cochons en Bretagne, on a mis tous les blés en Beauce. Alors, d'ailleurs, ils se sont posé des problèmes parce que comme le taux de matière organique s'effondrait en Beauce, ils se sont dit, on va peut-être faire des merdes odues qui emmèneraient la merde de cochon de Bretagne jusqu'en truc. Ils se sont rendus compte que ça coûtait quand même un peu cher. Donc, maintenant, on fabrique des usines qui brûlent la merde de cochon pour pas polluer la Bretagne. Vous voyez, c'est très intéressant comme modèle. Donc, on a reculé l'agriculture de 6000 ans et on a fait une énorme bêtise auquel tous ces agro-industries qui ne pensaient que business n'ont pas compris. Ils ont violé les lois biologiques du sol et ils ont balancé des engrais chimiques dans les sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques, en particulier de l'azote? Vous allez provoquer une réaction qui est à l'opposé du système biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les champignons qui fabriquent de l'humus, vous allez multiplier les bactéries qui, elles, minéralisent l'humus et dégagent du gaz carbonique. Or, il se trouve que les champignons se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Et comment ils s'en sortent, les champignons? Comment ils font pour fabriquer de l'humus? Eh bien, ils vont être les seuls et uniques organismes à prendre la lignine qui vient des arbres. C'est pour ça que les anciens avaient créé l'équilibre agro-silvo-pastoral. Ils sont les seuls organismes à attaquer la lignine. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait très peu d'azote. Parce que s'il y a de l'azote, c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et lorsque vous mettez de l'engrais sur un sol, vous faites disparaître la matière organique sous forme de gaz carbonique. Dans un pays comme la France, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 4% de matière organique à 1,3%. Vous imaginez le dégagement de gaz carbonique que ça représente. L'agriculture intensive, la révolution verte, représente 40% du dégagement de gaz carbonique sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de matière organique dans un pays comme la France? La faune qui se nourrit de la matière organique, elle peut plus se nourrir, donc elle meurt. Nous avons perdu 90% de nos animaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand les animaux s'en vont? Plus de remontée biologique des éléments en surface. Ça veut dire que l'azote part dans les nappes phréatiques, le phosphore part dans la nappe, part dans la mer, la magnésie, etc. Dégradation, donc après la dégradation biologique, vous rentrez dans la dégradation chimique de vos sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez trop loin dans la dégradation chimique? Je vous ai expliqué que c'était le calcium, le fer et l'aluminium qui attachaient l'argile et l'humus. Eh bien, le calcium s'en va, l'argile n'est plus attachée aux humus, et c'est le spectacle que vous avez maintenant tous les jours sur toute la planète, dès qu'il pleut. C'est dommage, je voulais vous montrer une photo, mais bon, pas réussi à l'extraire de mon petit campagnol. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les rivières sont pleines de boue. Et c'est devenu un spectacle tellement ordinaire de voir les rivières pleines de boue dès qu'il pleut, que pour tous les gens de la planète, c'est un phénomène tout à fait naturel. Or, lorsque vous avez la chance, comme j'ai pu le faire, de survoler des zones encore vierges, ça devient rarissime sur cette planète, eh bien, vous observez que partout où la planète est intacte, les rivières sont totalement transparentes. Dès que l'homme intervient qui est agriculteur, les rivières sont pleines de boue. Donc, nous perdons nos sols. Nous perdons nos sols simplement parce que nous n'avons pas respecté ces lois biologiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le futur? Il y a deux solutions. où on considère qu'un milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim et 3 milliards d'hommes qui sont carencés en un ou plusieurs éléments, c'est une chose naturelle avec laquelle on veut se faire. Alors nous avons une technique très simple, ça s'appelle les statistiques. Vous savez, Alfred Sauvy disait, les statistiques sont des êtres fragiles et délicats qui, soumis à certaines tortures, sont prêts à avouer absolument tout ce que vous voulez. Alors vous avez une façon très très simple de dire les choses. Il y a 1 milliard d'hommes qui crèvent de faim, 3 milliards qui sont carencés, c'est pas joli à présenter. Donc vous dites une chose très simple, vous dites, le pourcentage d'hommes qui meurent de faim est plus faible qu'il n'était au début du 20e. Et hop, vous êtes sauvés, vous êtes tranquilles. Le pourcentage est plus faible. Bon, il y a beaucoup plus d'hommes. En 1800, il y avait 200 millions d'hommes qui étaient affamés. Nous sommes 1 milliard. Mais pour quand même dire qu'on est toujours en progrès, on vous raconte que le pourcentage, vous voyez, comme il y avait 200 millions quand on était 1 milliard, ça faisait 20%. Maintenant, on n'a plus que 15% de gens qui crèvent de faim. Donc, c'est un gros progrès. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'en sort, ce qu'on appelle les statistiques. C'est très important pour les hommes politiques, on en a toujours besoin.
Des alternatives aujourd'hui. Le semi-direct, qui est la forme la plus aboutie de la simplification du travail du sol, représente aujourd'hui 70 millions d'hectares dans le monde. Même s'il ne couvre que 5% des surfaces agricoles, c'est la forme d'agriculture qui se développe le plus rapidement à l'heure actuelle. Les nombreuses expériences sous tous les climats, avec tout type de plantes, sur tout type de sol, montrent qu'il n'existe pas de réelle limite à ces systèmes. L'Amérique du Nord et du Sud sont les continents où l'agriculture de conservation est devenue incontournable. Si les États-Unis comptent la plus grande surface en semi-direct, avec 19,7% de leur surface agricole totale, le semi-direct est utilisé sur 50% des surfaces en Argentine, 45% au Brésil, 60% au Paraguay. Certains spécialistes estiment que dans 10 ans, ce sont près de 85 à 90% des surfaces qui seront mises en semi-direct dans ces trois pays. Il y a une autre agriculture, l'agriculture du non-agir, qui a été théorisée par le japonais Masanubo Fukuoka dans son livre « La révolution d'un seul brin de paille ». Petite histoire. Près d'un petit village de l'île de Shikoku, au sud du Japon, Masanubo Fukuoka a développé une méthode d'agriculture naturelle qui pourrait aider à inverser le mouvement dégénéré de l'agriculture moderne. L'agriculture sauvage ne nécessite ni machines, ni produits chimiques et très peu de désherbage. Monsieur Fukuoka ne laboure pas la terre et n'utilise pas de compost préparé. Il n'a pas labouré la terre de ses champs depuis 25 ans, et cependant leur rendement peut être favorablement comparé à ceux des fermes japonaises les plus productives. Sa méthode agricole demande moins de travail qu'aucune autre méthode. Elle ne crée aucune pollution et ne nécessite pas d'énergie fossile. À strictement parler, la seule agriculture dite sauvage devrait être réservée à la chasse et à la cueillette. Faire pousser des récoltes agricoles est un changement culturel qui requiert de la connaissance et un effort constant. La distinction fondamentale est que M. Fukuoka cultive en coopérant avec la nature plutôt qu'en essayant de l'améliorer par ses conquêtes. Voici les quatre principes de l'agriculture naturelle ou permaculture. Le premier principe est de ne pas cultiver, c'est-à-dire de ne pas labourer ou retourner la terre. Pendant des siècles, les agriculteurs ont tenu pour établi que la charrue était essentielle pour faire venir des récoltes. Ne pas cultiver est le fondement de l'agriculture sauvage. La terre se cultive elle-même naturellement par la pénétration des racines des plantes et l'activité des micro-organismes, des petits animaux et des vers de terre. Le second principe est de ne pas utiliser de fertilisants chimiques ou de compost préparé. Pour fertiliser, M. Fukuoka fait pousser une légumineuse en couverture du sol, le trèfle blanc, remet la paille battue sur les champs et ajoute un peu de fumier de volaille. Le troisième est de ne pas désherber, ni mécaniquement, ni aux herbicides. Les mauvaises herbes, entre guillemets, jouent leur rôle dans la construction de la fertilité du sol et dans l'équilibre de la communauté biologique. C'est un principe fondamental que les mauvaises herbes doivent être contrôlées et non éliminées. Le quatrième principe est pas de dépendance envers les produits chimiques. Monsieur Fukuoka fait pousser ses récoltes de céréales sans produits chimiques d'aucune sorte. Il n'utilise pas de poison persistant ou à large spectre et n'a pas de programme pesticide. Depuis le temps que les plantes faibles se sont développées, conséquence de pratiques contre nature telles que le labour et la fertilisation, la maladie et le déséquilibre des insectes sont devenus un grand problème en agriculture. La nature, laissée seule, est en parfait équilibre. Les insectes nuisibles et les maladies des plantes sont toujours présents, mais n'atteignent pas dans la nature une importance endémique qui nécessite l'utilisation de produits chimiques. Une autre solution, c'est l'utilisation du BRF ou bois raméo fragmenté. Puisque le sol est ruiné par 5000 ans d'agriculture, Pour redémarrer le mécanisme biologique des sols morts, on peut parsemer des fragments de bois broyés sur les cultures afin que les micro-organismes et les champignons redémarrent leur travail de fertilisation des sols et de création d'humus. Il y a aussi l'agroforesterie, ou pratiquer un équilibre agro-silvo-pastoral. Il s'agit d'associer sur les mêmes parcelles plusieurs productions agricoles annuelles, cultures ou pâtures, et des productions différées à long terme avec les arbres pour faire des produits bois. Les travaux les plus récents ont montré que les associations d'arbres et de cultures agricoles peuvent être très efficaces, à la fois en termes de production, mais aussi en termes de protection de l'environnement. Des pratiques agroforestières modernes permettront de diversifier les exploitations agricoles, de fournir des bois de grande qualité à l'industrie, de mieux respecter l'environnement tout en créant des paysages ruraux attractifs et originaux. Labour, labour et ratatam.
Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.